Pendant près de 20 ans, un surdoué en mathématiques entretient le fantasme de détruire la société industrielle. Il pose des bombes ou en envoie par la poste à d'innocentes victimes. Au cours de cette vague destructrice, 3 personnes perdront la vie et des dizaines d'autres seront blessées. C'est le dossier le plus complexe du FBI. Des agents ont enquêté pendant 17 ans à la recherche du terroriste invisible qu'on avait surnommé Yuna Bomber. Le 25 mai 1978, à Evanston, dans l'Illinois, un professeur en ingénierie du nom de Buckley Christ, de la Northwestern University, arriva dans la salle de courrier avec un colis dans les mains. Son nom figurait sur le colis à titre d'expéditeur. Pourtant, il ne connaissait pas l'homme à qui il l'avait présumément envoyé. Le garde de sécurité Terry Marker lança à la blague qu'il s'agissait peut-être d'une bombe. Il ne s'était pas tout à fait trompé, même si la bombe s'avéra inoffensive. C'était le début d'une vague de destruction qui allait mystifier les services du FBI pendant près de 20 ans et terroriser une nation tout entière. Le 15 novembre 1979, le vol 444 de la American Airlines décolla de l'aéroport de Chicago en partance pour Washington. Le Boeing 727 prenait de l'altitude lorsque la cabine s'emplit de fumée. Ce fut l'état de panique. L'avion dut atterrir à l'aéroport Dulles en Virginie. Plus d'une dizaine de personnes furent incommodées par la fumée et durent recevoir les soins requis. L'un des fils de la bombe avait mal été fixé. Heureusement, sinon plus d'une centaine de personnes auraient perdu la vie. Aux États-Unis, poser une bombe dans un avion est un délit de juridiction fédérale. On fit appel à l'agent Chris Roney du FBI pour examiner la bombe.
C'était essentiellement une boîte de bois qui visiblement était assemblée à la main. Elle contenait un interrupteur barométrique, d'autres composants de mise sous tension, des piles, des fils électriques et un contenant pour la charge explosive. La variation de la pression atmosphérique dans la soute à bagages activait l'interrupteur barométrique. C'était cet instrument qui devait provoquer l'explosion de la bombe.
L'utilisation de cet équipement sophistiqué indiquait à coup sûr que le coupable était quelqu'un de très compétent en la matière. Roney commença son enquête auprès de la police de Chicago. Il espérait trouver quelque chose qu'il pourrait comparer au dispositif trouvé dans l'avion. Suite à des recherches approfondies, on identifia 2 incidents mineurs qui s'étaient produits à la Northwestern University. Apparemment, il n'y avait aucun lien entre eux. Lors du premier incident, Terry Marker avait été blessé. Le 9 mai 1979, une autre bombe avait explosé à l'université et avait grièvement blessé l'étudiant John Harris. La conception de la deuxième bombe était pratiquement identique à la première. Mais comme les incidents avaient relativement peu d'importance, les autorités n'avaient pas tenté d'établir des liens. On avait attribué ces bombes artisanales à des farceurs de mauvais goût et on s'était débarrassé des restes des dispositifs. À partir des photos seulement, Chris Roney établit que les 3 bombes avaient toutes été fabriquées par la même personne.
Il y avait une certaine technique de fabrication. La façon dont le bois avait été coupé, assemblé, les marques sur le bois et la façon dont le ruban adhésif avait été collé. À partir des photos, j'ai tout de suite su que c'était la même personne dans les 3 cas.
Les bombes tuyaux placées à l'intérieur des boîtes de bois étaient constituées de composantes ordinaires, des vis, des clous, de la poudre explosive et du ruban adhésif. Ces composantes étaient de fabrication artisanale et avaient été limées de façon à ce qu'il soit impossible d'en retracer la provenance.
Certaines composantes semblaient avoir été faites avec plaisir par l'auteur, tellement elles avaient été façonnées avec soin et minutie. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point cet individu avait mis du temps sur cette bombe et combien il semblait avoir apprécié l'affaire.
Il n'y avait pas de doute possible. Le FBI était aux prises avec un récidiviste, un criminel passionné par ce qu'il faisait. Dans les années 50, dans une banlieue de l'Illinois, un jeune garçon timide et très intelligent du nom de Ted Kaczynski sauta une année à l'école élémentaire. Il était introverti et préférait étudier seul dans sa chambre, particulièrement la chimie. C'était un jeune enfant prodige, dont l'intelligence était supérieure à la moyenne. Son quotient intellectuel avait été évalué à 170. Il avait fait son admission à Harvard à 16 ans et avait obtenu son diplôme 3 ans plus tard, en 1962. En seulement 5 ans, il avait obtenu son doctorat de l'Université du Michigan. Il était l'assistant du professeur de mathématiques de l'Université de Berkeley en Californie. Kaczynski n'était pas un professeur populaire ni sociable. Pratiquement personne n'eut l'occasion de le connaître intimement. En 1969, il donna sa démission abruptement. La dimension sociale de sa profession semblait trop demander de lui. Il ne se sentait pas à l'aise dans le rôle de professeur. En 1971, Kaczynski décida d'abandonner complètement la vie en société. Il fit l'acquisition d'un acre et demi de terre en région, près de Lincoln, au Montana, à 1800 mètres au-dessus de cette société dont il ne voulait plus. Il construisit une cabane de moins de 3 mètres carrés, sans électricité, ni eau. Il y vivait seul, lisant et écrivant. L'un de ses écrits était un essai virulent de 23 pages, dans lequel il s'insurgeait contre l'obsession de l'homme moderne face au progrès technologique. La recherche scientifique, écrivait-il, va inévitablement nous conduire à la mort de la liberté individuelle. Il en envoya une copie à son frère David. Ce dernier le lut et le rangea dans un coffre où il allait demeurer pendant les 25 prochaines années. En juin 1978, Ted Kaczynski sortit de sa cabane pour aller travailler pour son frère à son usine de coupe de mousse de polyuréthane. Son comportement bizarre finit par dépasser les bornes. Ted insulta une de ses collègues de travail qui avait refusé ses avances sexuelles. Son frère dut le renvoyer. Ted était rongé par le ressentiment. Il retourna vivre dans sa cabane au Montana, jurant de ne jamais revoir sa famille. Ce surdoué introverti était frustré de n'avoir pu s'intégrer socialement. Il devint encore plus solitaire, convaincu que l'homme moderne était incapable de le comprendre. Il commença dès lors à percevoir la société comme un obstacle qu'il lui fallait vaincre. Avec le temps, Ted s'habitua à sa vie de reclus. Il faisait tout pour être autonome et cultivait même ses propres fruits et légumes. Il avait peu de contact avec le monde extérieur, préférant la compagnie de la nature sauvage du Montana. Ted n'allait à Lincoln que très rarement. Et lorsqu'il y allait, c'était pour aller consulter les livres de référence de la petite bibliothèque municipale. Le 3 mai 1980, il se rendit à Lincoln sur le vélo qu'il avait fabriqué lui-même. Cette fois-ci, il n'irait pas à la bibliothèque. Il prit l'autobus d'Helena et loua une chambre au Helena Park Hotel. Le lendemain, il prit la direction de la côte ouest. Il avait une affaire pressante à régler. Percy Wood, le président de la United Airlines, reçut un colis à sa résidence en banlieue de Chicago le 10 juin 1980. Quelques jours plus tôt, il avait reçu la lettre d'un inconnu qui lui promettait de lui envoyer un livre dont la portée sociale était très importante. Wood ouvrit le colis au-dessus du comptoir de sa cuisine. Il en retira un livre, Ice Brothers, de Sloane Wilson. Wood était intrigué. Pourquoi ce livre était-il significatif? Il l'ouvrit. Il passa à un doigt de la mort. Le terroriste s'était considérablement amélioré. C'était sa quatrième bombe et sa plus puissante jusqu'à présent. Les experts en explosifs du FBI et de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, se rendirent sur les lieux. Ils reconnurent immédiatement la signature du terroriste. À chaque fois, il s'agissait de bombes-tuyaux et leur fabrication toujours la même. Sur cette bombe, cependant, le terroriste avait laissé une carte de visite. Gravée sur un morceau, dans les débris, se trouvaient les lettres F et C.
Les lettres avaient été mises là à dessein. Elles avaient même été gravées de façon à résister à la détonation. Il n'y avait pas d'autre explication ni aucune autre fonction à leur présence. C'était une signature.
Il n'y avait plus qu'à tenter de comprendre leur signification. Les experts du FBI avaient déjà trouvé un surnom à l'auteur de ces crimes, Unabomber. Un pour université et A pour avion, ses deux cibles de prédilection. Lui trouver un surnom avait été facile. Le retrouver, lui, serait bien plus complexe. En 1981, les lettres FC étaient l'indice le plus important dont disposait le FBI à propos de Unabomber. Les agents vérifièrent les antécédents de milliers de personnes avec ces initiales. Pendant ce temps, le terroriste continuait sur sa lancée. En octobre, on retrouva un colis dans un immeuble de l'université de l'Utah. C'était une bombe tuyau. Heureusement, elle n'éclata pas. Les experts pourraient examiner cette bombe intacte. Peut-être leur serait-il possible de retracer une de ses composantes, mais cela prendrait du temps. Unabomber était toujours actif. Au printemps de 1982, un colis destiné au professeur Leroy Wood Burnson explosa dans les mains d'un assistant de l'université de Vanderbilt. La bombe avait été fabriquée avec les mêmes matériaux. À nouveau, on retrouva une pièce avec les lettres FC dans les morceaux qui en restaient. Les experts passèrent plusieurs heures à analyser les moindres détails de la bombe. On trouva alors un indice bien étrange. Les deux dernières personnes à avoir été la cible du terroriste portaient le nom de Wood, soit le mot bois en français.
Le bois jouait un rôle important dans ces bombes. On le retrouvait chaque fois. S'il n'y avait pas de bois dans la fabrication, le suspect en ajoutait quelques bâtonnets, tout simplement, sans aucun autre motif. Il y avait des références au mot « bois » dans les adresses et les noms des personnes à qui il s'attaquait.
Mais à mesure que les recherches du FBI s'intensifiaient, la puissance des bombes de Unabomber augmentait elle aussi. Le 2 juillet 1982, le professeur Diogenes Angelakos, de l'université de Berkeley en Californie, un mari dévoué et un professeur apprécié, remarqua un objet étrange sur le sol dans la salle de repos du département d'informatique. L'explosion le blessa gravement. Ses doigts furent déchiquetés. Il était au sol dans un état semi-comateux lorsqu'il trouva un mot dactylographié. « Wu, cela fonctionne, je te l'avais dit, RV. » « les agents du FBI vérifièrent les antécédents de tous les Américains qui s'appelaient Wu et de tous ceux dont les initiales étaient RV. La tâche était monumentale. Mais ils ne trouvaient rien. C'était un stratagème. En mai 1985, dans le même édifice, l'ancien étudiant John Hauser, un capitaine dans la Air Force, remarqua sur le sol un cartable posé sur un autre objet. Hauser venait tout juste de poser sa candidature pour recevoir un entraînement d'astronaute. Il gisait au sol, ignorant qu'il avait déjà été accepté. Malheureusement, il ne pourrait plus jamais piloter. On retrouva sa bague de l'Académie de la Air Force incrustée dans le mur de l'autre côté de la pièce. Ironiquement, le professeur Angelakos était tout près lors de l'explosion. Il accourut pour porter secours à Hauser. Les enquêtes menées par les agents du FBI, de l'ATF et du service des postes américains avaient fini par devenir frustrantes, tellement elles n'avançaient pas. Le 8 mai 1985, la société Boeing située à Auburn, dans l'état de Washington, reçut un colis. Il était lourd et on y avait apposé trop de timbres. Un employé du service du courrier se méfia et il appela le service de sécurité. Une radiographie du colis permit de déterminer qu'il contenait une bombe tuyau. Les lettres FC avaient été gravées à chacun des bouts. Si l'employé avait ouvert ce colis, il est fort probable qu'il serait mort ainsi que ses collègues à proximité. Le 15 novembre 1985, James McConnell, un professeur de psychologie à l'Université du Michigan, reçut une lettre et un colis d'un certain Ralph C. Kloppenberg. L'expéditeur y déclarait qu'il faisait sa thèse de doctorat. Il demandait au professeur de lire un livre. Pendant qu'il lisait la lettre, son assistant ouvrit le colis. L'explosion blessa gravement l'assistant et fit exploser les tympans de McConnell. De leur côté, les experts continuaient à disséquer les bombes. Elles évoluaient à mesure que Unabomber améliorait son art. Leurs analyses permirent de constater qu'elles étaient de plus en plus sophistiquées et par conséquent plus puissantes. Hughes Curtin était propriétaire du magasin d'informatique Rentech à Sacramento en Californie. Le 11 décembre 1985, vers midi, il sortait par la porte arrière lorsqu'il remarqua quelque chose. Cela ressemblait à un bloc de bois, quatre clous en sortaient, la pointe vers le haut. L'explosion fut dévastatrice. La poitrine de Scruton fut complètement ouverte, laissant son cœur à découvert. Unabomber était devenu un meurtrier. La bombe qui avait tué Hugh Scruton était la plus puissante. C'était un tuyau à l'intérieur d'un autre tuyau. Elle était de fabrication similaire aux autres. On y avait également gravé les lettres FC de chaque côté. Ted Kaczynski vivait toujours dans sa cabane isolée. Lorsqu'il ne fabriquait pas des bombes, il écrivait. Il mettait au point une philosophie pour justifier ses crimes. Pour Kaczynski, la société technologique était une abomination. Elle causait la destruction de la Terre et transformait les êtres humains en des robots sans âme. Selon lui, quiconque entrait dans cet état de sujétion à la technologie était un scélérat. Le 20 février 1987, en regardant par la fenêtre de son bureau, la secrétaire du magasin d'électronique CAM de Salt Lake City aperçut un homme dans le stationnement en train de déposer un objet au sol. Une heure plus tard, le propriétaire du magasin, Gary Wright, arrivait dans le stationnement. Il remarqua l'objet. C'était un bloc de bois d'où sortaient quatre clous, les pointes vers le haut. Wright fut gravement blessé, mais miraculeusement, il eut la vie sauve. Pendant que la police était à la recherche d'un suspect dans les gares d'autobus et les commerces, on fit dresser son portrait grâce à la description de la secrétaire. À en juger par ses déclarations, l'homme était déguisé. Le dessin ne permit pas à la police de retrouver Una Bomber, mais elle eut tout de même un résultat positif. Una Bomber savait qu'il avait été vu et il cessa de faire des vagues pendant un certain temps. En 1993, après une pause de 6 ans, des événements très médiatisés le poussèrent à reprendre son travail là où il l'avait laissé. L'affrontement à Waco, au Texas, entre les agents de l'ATF et la secte des Davidiens, ainsi que le premier attentat du World Trade Center, avait créé un climat politique très violent. Una Bomber s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne de terreur. Charles Epstein est un généticien renommé de l'Université de San Francisco. Le 22 juin 1993, il s'assit à la table de sa cuisine pour ouvrir son courrier, notamment une enveloppe coussinée qu'il venait de recevoir. La détonation blessa gravement Epstein. Après 2 heures et demie sur la table d'opération, son état finit par se stabiliser. Deux jours plus tard, soit le 24 juin, David Gelernter, un éminent expert en informatique de l'université de Yale, arriva tôt à son bureau pour ouvrir son courrier de la veille. Il eut des blessures au bras droit, à l'œil et à l'abdomen. Gelernter parvint à sortir de son bureau et à chercher de l'aide. Quelques heures après l'explosion de la bombe destinée à Gelernter, le New York Times reçut une lettre. Elle provenait d'un soi-disant groupe d'anarchistes appelé FC, qui revendiquait les dernières bombes. Le FC promettait de leur envoyer bientôt de nouvelles informations. Il donnait également aux responsables du Times un numéro d'identification pour qu'ils puissent s'assurer de l'authenticité des prochaines communications. Ce numéro était le 553-25-43-94. Le FBI découvrit qu'il s'agissait du numéro d'assurance sociale d'un ex-prisonnier en liberté conditionnelle de la Californie. Fait incroyable, il avait les mots « Pure Wood », bois pur, tatoué sur son bras. Une enquête permit rapidement de prouver qu'il n'était pas Una Bomber. On découvrit alors un autre indice important. En analysant le papier de la lettre adressée au New York Times, on pouvait distinguer la trace à peine visible d'une note manuscrite « Appelez Nathan Eyre mercredi à 19h ». C'était la première piste importante donnée par Una Bomber. Le FBI interrogea plus de 10 000 personnes prénommées Nathan et dont le nom de famille commençait par la lettre R. Leur recherche ne donna malheureusement rien. Cette dernière vague d'activité obligeait le FBI à mettre les bouchées doubles. Une escouade spéciale formée d'agents du FBI, de l'ATF et d'inspecteurs du service des postes fut formée. Jim Freeman était alors le chef de bureau du FBI de San Francisco. C'est également lui qui dirigeait l'escouade spéciale.
Nous avions des indices dans 3 différents bureaux du FBI et plusieurs laboratoires d'État. Notre tâche principale était de réunir toutes ces informations, de déterminer ce qui avait déjà été fait au niveau de l'enquête. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'enquêter à nouveau sur tous les crimes perpétrés par Una Bomber.
Pendant que l'escouade spéciale travaillait d'arrache-pied, Kaczynski poursuivait sa croisade anti-modernisme. Le 10 décembre 1994, Thomas Moser, cadre d'une agence de publicité, ouvrait son courrier à sa résidence de Caldwell, au New Jersey. Sa femme et leurs 2 filles étaient à l'étage. Il examina un petit colis sur lequel on avait apposé trop de timbres. Il provenait d'un certain H.C. Wickle, du département des sciences économiques de l'Université de San Francisco. Cette explosion fut la plus dévastatrice. Thomas Moser fut décapité instantanément. Grâce à tous les éléments de l'enquête entourant Una Bomber, l'agent Moonell avait fabriqué des répliques de ces bombes à partir des débris recueillis sur les diverses scènes de crime. Tout comme les 15 premières bombes, cette dernière était incontestablement le résultat du travail de Una Bomber. Quelques mois plus tard, Ted Kaczynski se prépara à demeurer un certain temps sur la côte ouest. Ce voyage serait le plus occupé jusqu'à ce jour. Le 19 avril 1995, Kaczynski était dans la baie de San Francisco lorsque la bombe de près de 1000 kg d'essence de Timothy McVie détruisit l'immeuble Alfred P. Murrah à Oklahoma City, tuant 168 personnes. Cet événement n'eut aucun effet sur les plans de Ted. Le lendemain, soit le 20 avril, la nation n'était pas encore remise de la dévastation d'Oklahoma City que Kaczynski posta 4 lettres et un colis. Quelques jours plus tard, le courrier arriva sur la côte Est. La première lettre était destinée au New York Times. L'agent spécial Terry Turchi du FBI était alors le commandant en second de l'escouade spéciale.
Dans la lettre adressée au New York Times, il revendiquait la responsabilité des attaques de Thomas Moser, Charles Epstein et David Gelernter. Il mentionnait aussi certains de ses objectifs. Il déclarait avoir l'intention d'envoyer un manuscrit ou un essai au journal et il désirait qu'il le publie. S'ils acceptaient, il promettait de ne plus commettre d'actes de terrorisme.
La seconde lettre était adressée à la victime David Gelernter de Yale, qui n'était pas encore remis complètement de ses blessures. La lettre était sarcastique. Professeur Gelernter, les individus qui ont des diplômes ne sont pas aussi intelligents qu'ils le croient, écrivait-il. Si vous aviez eu la moindre cervelle, vous auriez compris que beaucoup de gens détestent amèrement la façon dont les techno-ringards de votre trempe tentent de changer le monde. Le 25 avril 1995, l'Association de foresterie de Californie reçut un colis. Il était adressé à son ancien président, William Dennison. Gilbert Murray, le nouveau président en poste, décida de l'ouvrir. Le colis piégé explosa avec une violence incroyable, détruisant tout ce qui se trouvait dans le bureau. Gilbert Murray fut littéralement déchiqueté. À quatre pâtés de maison, le gouverneur de la Californie entendit la détonation de son bureau. La vague de terreur de Una Bomber s'étendait à la grandeur du pays. Des alertes à la bombe étaient rapportées partout aux États-Unis. La liste de suspects du FBI comptait 50 000 noms. 16 ans et 16 bombes plus tard, Una Bomber avait fait 3 morts et blessé plus d'une vingtaine de personnes. 2 mois après la mort brutale de Murray, le San Francisco Chronicle reçut une lettre. On pouvait y lire que le groupe terroriste FC, appelé Una Bomb par le FBI, comptait faire exploser un avion en partance de l'aéroport de Los Angeles au cours des 6 prochains jours.
Nous avons pris cette menace au sérieux parce que Una Bomber avait effectivement déjà posé une bombe sur un avion. Elle n'était pas assez importante pour que l'avion explose en plein ciel, mais nous savions qu'il avait fait des progrès et qu'il en était sans doute maintenant capable.
Les agents du FBI prirent des mesures de sécurité extraordinaires. Les gardiens ne laissaient passer personne qui n'avait pas déjà son billet d'avion. Tous les sacs furent fouillés. Des chiens renifleurs vérifiaient absolument tout. Le service postal interrompit le transport de courrier par avion à bord des vols commerciaux.
On interrogeait les passagers qui avaient des sacs de voyage. On leur demandait s'ils l'avaient eu sur eux en tout temps, s'ils avaient eux-mêmes fait leur bagage. C'est ce genre de questions que nous avons commencé à poser ce jour-là à l'aéroport de Los Angeles.
Le même jour que celui où le San Francisco Chronicle reçut la menace à propos de l'aéroport, au Washington Post, on recevait de FC un manifeste de 56 pages dactylographié. Le New York Times reçut quant à lui une copie carbone du manifeste le lendemain et le magazine érotique Penthouse 2 jours plus tard. La lettre destinée aux responsables du Post et du Times mentionnait les conditions et les termes de la publication du manifeste. L'auteur acceptait de cesser d'envoyer des bombes si on le publiait. Pour l'agent spécial Terry Turchi et l'escouade spéciale, la réception de ce manifeste était une chance inespérée.
Bien sûr, quand nous avons reçu le manuscrit du Unabomber, c'était une information très importante. Nous savions que c'était ce que nous attendions, et que cela nous permettrait peut-être d'identifier Unabomber.
Le manuscrit était intitulé « La société industrielle et ses conséquences ». C'était un manifeste contre la technologie, la génétique, le gauchisme, le conservatisme et la société moderne en général. Les experts du FBI avaient recueilli beaucoup d'indices après toutes ces années d'enquête. Ils n'espéraient plus qu'une piste, celle qui permettrait de résoudre cette affaire. Freeman était de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait publier le manifeste.
Nous étions en faveur de sa publication après avoir lu le document, parce qu'il était évident que cet individu avait développé cette philosophie au fil de plusieurs années. Nous espérions qu'à la lecture du texte, quelqu'un se dirait « Je me souviens de ce garçon qui était avec moi en classe à telle ou telle université. »
Après maintes discussions entre le directeur du FBI, le procureur Janet Reno, les responsables du Washington Post et du New York Times, on en vint à la décision de le publier. Le manifeste parut dans un cahier spécial du Post le 19 septembre 1995. Au début de 1996, David, le frère de Ted Kaczynski, avait eu le temps de réfléchir. Il avait appris qu'il y avait une relation entre Chicago, leur ville d'enfance, en plus de Berkeley et Salt Lake City, et Unabomber. Il était intrigué par cette série de hasards. Il obtint une copie du manifeste et commença à le lire. Il espérait ainsi pouvoir s'assurer que son frère n'était pas l'auteur de ses crimes. Mais à la lecture du document, il fut terrifié. Il reconnaissait le langage et le contenu du manifeste. C'était identique à certains écrits de son frère Ted. David fouilla dans les documents et les lettres de son frère et les compara au manifeste. Tout comme Ted, l'auteur employait l'expression « cool-headed logician », logicien à la tête froide. David était inquiet mais pas encore convaincu. Il écrivit une lettre à son frère pour lui dire qu'il souhaitait lui rendre visite au Montana, mais il ne fit pas état de ses soupçons. Ted refusa de le rencontrer. David décida alors d'engager un détective privé afin que ce dernier examine la situation. Les nouvelles que ce dernier lui rapporta n'étaient pas encourageantes. Le détective avait soumis le manifeste ainsi que d'autres échantillons des écrits de Ted à des experts qui ignoraient tout de cette affaire. Selon les experts, il y avait de fortes chances que les auteurs du manifeste et des autres échantillons soient une seule et même personne. David poursuivit sa recherche de documents provenant de Ted. Dans un vieux coffre, il retrouva l'essai que Ted avait écrit en 1971. David ne pouvait plus se cacher la vérité. Il était possible que le Unabomber et son frère fussent une seule et même personne. David Kaczynski était en état de choc. L'essai de 1971 qu'il avait retrouvé ressemblait de façon troublante au manifeste de Unabomber. Déchiré entre la perspective de dénoncer son propre frère et celle de laisser d'autres personnes se faire tuer, David prit finalement une décision. Par le biais de son avocat, il entra en contact avec le FBI pour leur parler de ses soupçons. En février 1996, David Kaczynski parla de son frère aux membres de l'escouade spéciale. Il donna un compte-rendu précis de la vie de Ted, où il avait grandi, l'école qu'il avait fréquentée et où il vivait maintenant. Il leur donna ensuite à lire l'essai de 1971.
Nous avons alors pu faire une comparaison entre le document qui était beaucoup plus ancien et la copie du manifeste. Nous avons tout de suite su qu'il ne s'agissait pas de simples coïncidences.
Le les experts du FBI analysèrent l'essai et découvrirent plus de 160 ressemblances entre les deux documents, notamment des expressions et des fautes d'orthographe et ainsi de suite. Après 17 ans, les agents du FBI disposaient enfin d'un premier suspect important en la personne de Ted Kaczynski. Les agents du FBI surveillaient étroitement la cabane de Ted Kaczynski en attendant l'obtention d'un mandat de perquisition. Ils espéraient que Una Bomber ne ferait pas d'autres victimes dans l'intermédiaire. Au début d'avril, ils avaient assez d'indices pour obtenir un mandat. Ils avaient entre autres découvert que Ted avait fait de nombreux voyages. Les registres d'hôtels montraient qu'il était toujours en voyage peu avant l'explosion d'une bombe. L'agent Terry Turchi soumit un affidavit de 65 pages relatant les détails de l'affaire contre Ted Kaczynski et demandant la permission de fouiller sa cabane.
Nous travaillons depuis 5 heures du matin à mettre les diverses équipes d'agents en position dans les bois de Lincoln, au Montana, ainsi qu'à un poste de commandement que nous avions établi dans la ville même. Chacun avait un rôle déterminé à jouer. Nous disposions également d'une équipe d'experts qui se trouvait à un autre poste de commandement. Nous étions tous prêts lorsque le mandat nous a été accordé.
Des agents du FBI en civil et un garde forestier se rendirent à la cabane de Kaczynski. Ils s'approchaient en parlant à haute voix. Ils ne voulaient pas que Kaczynski croie qu'il était espionné. Les agents lui demandèrent son aide pour identifier les limites de sa propriété sur une carte géographique. Pendant qu'il rentrait pour prendre une veste, les agents se précipitèrent sur lui. Kaczynski était maintenant en détention provisoire. On l'emmena au poste de commandement temporaire pour l'interroger. Jim Freeman allait enfin rencontrer l'homme qui avait échappé au FBI pendant presque 20 ans.
Il avait l'air débraillé. On aurait dit qu'il était couvert de suie. Les agents qui lui ont pris les bras pour le maîtriser avaient de la suie sur les mains.
Kaczynski nia toute accusation et refusa de dire s'il avait des bombes. Au cours de l'interrogatoire, on commença la fouille de sa cabane. On traita les lieux comme s'il s'agissait d'une véritable bombe. On pouvait présumer qu'il y avait des explosifs. Kaczynski avait même peut-être piégé sa cabane. Des équipes spécialisées dans les explosifs y pénétrèrent. Ted Kaczynski n'avait pas encore été inculpé. Les experts qui fouillèrent sa cabane trouvèrent assez de preuves pour l'inculper de possession de matériaux reliés à la fabrication de bombes. Il y avait des tuyaux, des produits chimiques, des fils électriques, des piles et des boîtes de bois. Ces découvertes permettraient aux agents de prolonger la détention de Kaczynski pendant que des fouilles plus exhaustives seraient effectuées. L'agent spécial et expert en explosifs Donald Sachleben devait trouver le plus grand nombre d'indices possibles pour obtenir un mandat d'arrestation. Il se rendit immédiatement à Helena pour présenter sa pétition au juge. Sachleben travaillait sur l'affaire Una Bomber depuis plusieurs années.
Je rentrais à Helena ce soir-là lorsque Pat Webb et moi-même, qui travaillons sur cette enquête depuis si longtemps, nous nous sommes regardés en nous disant que c'était peut-être le début de la fin. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment compris que nous avions enfin mis la main au collet du Una Bomber.
Ted Kaczynski fut gardé en détention pour la nuit jusqu'à ce qu'on puisse procéder formellement à son arrestation le lendemain matin. La télévision nationale diffusait des images de lui, marchant dans la rue, accompagné des policiers. Il était l'incarnation même de l'ermite excentrique. Le lendemain, il comparut devant un juge d'Helena et fut accusé de posséder du matériel pour fabriquer des bombes. La fouille de la cabane se poursuivait. C'était une véritable mine d'or, mais il fallait être très prudent. Les indices recueillis à pas de tortue étaient cependant très incriminants. Il y avait toute une série de cartables contenant des pages et des pages de modèles de bombes qui correspondaient à celles que Una Bomber avait fabriquées. Il y avait également de la poudre explosive, du type de celle de Una Bomber, des lingots d'aluminium et des copeaux d'aluminium, autant de composantes importantes dans la fabrication de bombes. On trouva également le chandail à capuchon et les lunettes fumées décrites par un des témoins. L'agent Thomas Mannell, qui a analysé les bombes de Una Bomber, était également sur les lieux.
Parmi les autres indices dans la cabane, il y avait des composantes électriques et des fils semblables à ceux qu'on trouvait dans la majorité des dispositifs de Una Bomber. Nous avons trouvé un interrupteur artisanal identique à trois interrupteurs déjà placés dans des bombes.
Après deux jours de fouilles, on interrompit les recherches. On avait trouvé un colis. Il était enveloppé comme les autres bombes. Il y avait une adresse de retour. Il ne restait plus qu'à y ajouter le nom de la victime et son adresse. Le colis fut radiographié. Il contenait une bombe tuyau prête à exploser. L'agent spécial Sachleben devait gérer cette situation de crise.
Grâce au rayon X, nous avons pu constater que la bombe était semblable à celle qui avait tué M. Murray à Sacramento. Nous avons sorti la boîte de la cabane et nous avons descendu la colline où nous avons établi un site temporaire pour la désamorcer.
On poursuivit les recherches les jours suivants. Les indices incriminants ne cessaient de s'accumuler. En plus des matériaux destinés à la confection de bombes, les experts trouvèrent des lettres, des mots, des diagrammes et le manifeste de Una Bomber. Il restait encore à trouver la preuve irréfutable de l'implication de Ted Kaczynski, la machine à écrire qu'il avait utilisée pour rédiger son manifeste.
La machine utilisée n'a été trouvée que le dernier des 4 ou 5 jours de fouilles. Elle était au fond de la dernière boîte qui a été ouverte.
En tout, il avait fallu 11 jours de recherche pour examiner le contenu d'une cabane de 2,40 mètres carrés. Mais ce travail minutieux avait porté fruit. L'homme qui avait tué, mutilé et ruiné la vie de tant d'innocentes victimes avait enfin été arrêté. Le 14 avril, la cabane fut placée sur une remorque et transportée au laboratoire judiciaire pour que les recherches se poursuivent. On porta de nouvelles accusations contre Ted Kaczynski. Le 18 juin 1996, il y avait 10 chefs d'accusation contre Ted Kaczynski. L'un d'eux était la mort de Hugh Scruton. Il y avait 3 chefs d'accusation pour les blessures de Charles Epstein, 3 pour la mutilation de David Gelotter et 3 pour la mort de Gilbert Murray. Ce dernier aurait d'ailleurs célébré son 48e anniversaire à cette date. Les autorités du New Jersey avaient d'autres accusations à porter pour la mort de Thomas Moser. Le 12 novembre 1996, des visiteurs triés sur le volet entraient dans la salle d'audience de la cour de Sacramento pour assister au procès tant attendu de Ted Kaczynski. Dans la première rangée se trouvait David, le frère de Ted et sa mère, Wanda Kaczynski. Lorsque Ted entra dans la salle, il tourna le dos aux membres de sa famille et ne les salua pas. Les avocats allaient débuter quand Ted se leva et demanda un nouvel avocat. Quelques jours plus tard, le juge ordonna que Kaczynski subisse une évaluation psychologique. La psychiatre Sally Johnson passa plusieurs jours avec Ted Kaczynski. Elle en conclut que ce dernier était mentalement malade, mais qu'il était cependant apte à subir son procès. Les preuves contre Ted Kaczynski étaient imposantes. Le FBI se préparait depuis 17 ans. Les experts avaient reconstruit et conservé toutes les bombes reliées au crime de Una Bomber. Après l'arrestation de Ted Kaczynski, ils avaient pu établir un lien irréfutable entre lui et Una Bomber. La vie de réclusion qu'avait choisi ce dernier ne serait plus un choix qu'il pouvait faire. Sans autre option, il plaida coupable à tous les crimes reliés à Una Bomber. Il écopa de 4 peines d'emprisonnement à vie plus 30 ans. Il ne pourrait jamais être éligible à une libération conditionnelle. Pour l'agent Terry Turchi, l'enquête entourant Una Bomber montre à quel point le FBI est déterminé à ne jamais abandonner jusqu'à ce que justice soit rendue, peu importe le temps requis.
Les gens qui commettent ces crimes et qui s'en tirent pendant plusieurs années deviennent de plus en plus arrogants. Ils croient qu'on ne les arrêtera jamais. Mais ils doivent comprendre que nous n'abandonnons jamais la partie. Nous sommes déterminés à résoudre ces enquêtes. C'est notre mission et nous nous y conformons.
En juin 1998, Johanna Lee, l'assistante de l'éditeur Simon Schuster Publishing, reçut une lettre de Ted Kaczynski, dont l'adresse de retour était la prison. Elle savait qu'il s'agissait de Una Bomber, mais elle l'ouvrit tout de même. Kaczynski désirait qu'on publie un livre à propos de son combat. À ce jour, personne n'a encore accepté de le publier. La tour numéro 1 du World Trade Center à New York, le vendredi 26 février 1993. Le stationnement souterrain est le théâtre d'une explosion dévastatrice que cache une fumée très dense. Une femme blessée, seule, prisonnière des décombres, appelle la police. Ce jour-là, le service de police de New York recevra plusieurs appels de détresse de gens qui semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Midi 18, le 26 février 1993, la tour numéro 1 du World Trade Center de 110 étages fut prise d'assaut par la panique et la confusion. Des gens étaient prisonniers dans les ascenseurs. Il n'y avait plus d'électricité. La fumée avait rendu les couloirs obscurs. Des milliers d'occupants blessés et terrorisés suffoquaient en essayant d'échapper à ce qui ressemblait à un cauchemar. L'ingénieur qui avait conçu les tours avait pourtant imaginé plusieurs scénarios catastrophes. Les tours devaient pouvoir résister à la violence d'un ouragan et même à quelque chose d'aussi inimaginable que l'impact d'un avion à réaction rempli d'essence. Mais à l'évidence, il n'avait pas pensé à tout, même si personne ne savait encore exactement ce qui arrivait. La tour numéro 1 du World Trade Center s'était transformée en une immense cheminée. Les cages d'escalier aspiraient la fumée du sous-sol et enfumaient du même coup les étages supérieurs. Au cours des premières heures, on ne savait qu'une chose. La source du problème se trouvait dans le stationnement souterrain. Neil Herman, le superviseur d'une cellule antiterroriste du bureau du FBI de New York, se trouvait à seulement quelques rues du World Trade Center. Même si les agents du FBI n'avaient aucune idée de ce qui avait pu causer ce désastre, ils décidèrent d'envoyer une équipe sur place.
Au début, on nous a dit qu'il s'agissait peut-être d'un incendie ou de l'explosion d'un transformateur. Mais, à en juger par l'agitation sur la radio de la police, on a mis seulement quelques minutes à comprendre que c'était plus grave. Avec d'autres membres de la cellule antiterroriste, je me suis rendu au World Trade Center.
Il fallait d'abord et avant tout évacuer les victimes de l'immeuble. Mais les importants dégâts causés par la déflagration nuisaient considérablement au travail des sauveteurs. De nombreuses personnes durent faire des pieds et des mains pour enfin sortir de l'immeuble. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient plus, les occupants des derniers étages devaient descendre à pied. De plus, plusieurs furent victimes de malaise après avoir inhalé trop de fumée. Pendant que des centaines de sauveteurs travaillaient sans relâche, les agents du FBI qui avaient été envoyés à l'immeuble se mirent à la recherche de tout indice sur la cause de cette dévastation. Les dégâts étaient colossaux. Tout autour du complexe, les rues s'étaient déformées sous la force de l'impact qui venait d'en dessous. L'hôtel Vista, niché entre les deux tours, avait subi d'énormes dégâts lui aussi. Pour les enquêteurs, il devint très vite apparent que ce qui s'était passé dans le stationnement de l'immeuble ne pouvait être que très puissant pour avoir endommagé 4 niveaux du stationnement, de même que la rue et les premiers étages de l'immeuble. L'agent spécial Chuck Stern du service antiterroriste du FBI menait l'enquête.
À peu près une heure après le coup, on a commencé à penser qu'il y avait eu des explosifs. Et bien sûr, on obtenait de plus en plus d'informations. Nos experts en explosifs du FBI étaient descendus dans le stationnement et ils travaillaient avec l'escouade antibombe de la police de la ville. Ils en étaient arrivés à la même conclusion, tout laissait croire à une explosion.
En début de soirée, les 200 agents et experts du service des explosifs du quartier général du FBI furent envoyés sur les lieux pour venir en aide aux experts de l'escouade antibombe de la police de New York et ceux de l'ATF, le bureau qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu. La priorité, sortir des survivants. Les sauveteurs fouillaient principalement le stationnement. Lentement, à mesure qu'ils progressaient parmi les décombres, ils furent à la fois stupéfaits et soulagés de trouver des survivants. Ils atteignirent bientôt un endroit ayant subi des dégâts plus importants encore. Les experts en explosifs du FBI, de l'ATF et de la police de New York étaient tous vêtus de combinaisons de protection. Certains avaient avec eux des caméras thermiques qui pouvaient discerner les corps parmi les décombres. Les équipes de fouilles firent bientôt plusieurs découvertes macabres. Ils trouvèrent 6 morts. Parmi ceux-ci se trouvait John DiGiovanni, un vendeur de fournitures de dentisterie qui s'était garé dans le stationnement. Robert Kirkpatrick, William Mako, Stephen Knapp et Monica Smith, qui faisaient partie de l'équipe d'entretien des bureaux du World Trade Center. Monica était enceinte de son premier enfant. Wilfredo Mercado, un employé aperçu pour la dernière fois en train de décharger une fourgonnette dans le stationnement, fut également trouvé mort sous 4 mètres de béton. C'était une scène d'apocalypse. Des débris et du béton étaient éparpillés sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Des centaines de voitures avaient été démolies et des incendies éclataient un peu partout à cause de l'essence répandue. Des pompes drainaient l'eau qui giclait des tuyaux brisés. Au-dessus de leur tête, les sauveteurs virent 6 tonnes de béton maintenues par des barres d'armature tordues. Des câbles de fibre optique pendaient dans le vide. Pour les agents du FBI, il ne pouvait absolument pas s'agir là d'un accident. L'agent spécial Chris Roney du laboratoire du service des explosifs du FBI examina les lieux.
En analysant les dégâts de l'immeuble, et ce, dès le début de l'enquête, nous avons vu clairement qu'ils avaient été causés par une bombe importante, un engin explosif de plusieurs centaines de kilos. À ce moment-là, on n'en était encore qu'à des approximations. Mais on savait que quelqu'un l'avait laissé quelque part dans le stationnement souterrain, vraisemblablement dans une voiture.
Si les conclusions préliminaires des agents étaient justes, c'était le plus important attentat terroriste à avoir lieu en sol américain jusque-là. Le lendemain matin, des équipes composées de diverses agences effectuèrent un examen plus poussé des dommages. En plus d'être toujours à la recherche de victimes, il devait trouver des indices qui expliqueraient la cause de l'explosion. On leur avait toutefois explicitement donné l'ordre de ne rien déplacer. La structure des niveaux inférieurs était sérieusement affaiblie. La moindre perturbation pouvait provoquer un affaissement et tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le niveau 2 du stationnement s'était effondré et avait ainsi entraîné des centaines de voitures quelques étages plus bas. Tous les véhicules s'étaient par conséquent retrouvés au dernier niveau, écrasant du même coup la salle de réfrigération de l'immeuble.
En fait, ce que les ingénieurs nous ont dit, c'est que les débris qui s'étaient accumulés autour des piliers les faisaient ressembler à des pailles qu'on aurait plantées dans le sable. Et il ne fallait pas enlever ces débris, car on risquait d'affaiblir du même coup le peu de soutien qui restait à l'hôtel Vista au-dessus.
Des équipes d'ouvriers s'évertuèrent à renforcer murs et piliers de soutien sur les divers niveaux du stationnement pour que les agents et les investigateurs puissent examiner les lieux en sécurité. Après plusieurs heures, les techniciens purent enfin atteindre l'endroit où s'était produite la déflagration.
C'était sinistre, et presque fantomatique, car c'était désert. De nombreuses voitures avaient le coffre ouvert. On entendait parfois un tic-tac, semblable à celui que fait la minuterie d'une bombe, mais en fait, c'était les clignotants qui s'étaient mis à fonctionner.
Peu à peu, les équipes se rapprochaient du foyer de l'explosion. Les dégâts étaient si importants qu'il ne restait rien qui puisse expliquer ce qui l'avait causé. Tous les niveaux s'étaient effondrés, creusant un cratère de 5 étages de haut. Les enquêteurs à la recherche de résidus d'explosifs eurent du mal à en trouver, car ils s'étaient mêlés aux débris de béton et autres matériaux de construction. On devrait passer au peigne fin des tonnes de décombres pour trouver la moindre parcelle d'indices. On recueillit la poussière sur des centaines de véhicules endommagés et on passa l'aspirateur à l'intérieur à la recherche de résidus. Il n'était pas question de baisser les bras. Quelque part parmi ces décombres se trouvaient forcément des réponses. La population des États-Unis fut incrédule puis horrifiée en voyant les images de l'attentat à la bombe du World Trade Center. C'était comme si l'innocence de l'Amérique avait été détruite. Les États-Unis faisaient désormais partie des pays ciblés par les terroristes. Résolus à trouver les coupables, les dirigeants de la ville mirent leur tête à prix. On offrait $200,000, soit la plus importante récompense jamais offerte dans l'histoire de New York, pour tout indice menant à leur capture. Dès le samedi matin, le FBI établit un poste de commandement pour mener cette enquête. Tous les agents disponibles furent assignés à l'affaire. Ils reçurent des centaines de pistes. Beaucoup de gens appelaient pour parler d'un voisin suspect. De nombreux groupes revendiquèrent la responsabilité de l'explosion. Même si la plupart de ces pistes ne semblaient guère prometteuses, on ne pouvait en négliger aucune. Deux jours après la déflagration, pendant que les agents continuaient de remonter des pistes, les enquêteurs qui examinaient la scène du crime remarquèrent un morceau d'acier tordu et carbonisé à l'endroit précis où l'on pensait que l'explosion avait eu lieu. Cette pièce provenait d'un véhicule détruit, peut-être même le véhicule utilisé pour le transport de la bombe. Les experts aperçurent alors une série de chiffres gravés sur ce morceau de métal. Bien qu'on leur ait ordonné de laisser tous les indices en place, ils étaient convaincus que cet objet était assez important pour qu'il puisse contrevenir aux directives. Ils placèrent le morceau de métal sur un brancard et le firent monter jusqu'au niveau de la houe. Une fois à la surface, les agents acheminèrent à toute vitesse leur trouvaille au laboratoire judiciaire du service de police de New York mis à leur disposition. Les experts en poste eurent du mal à trouver le sens des chiffres gravés sur le métal. Ils appelèrent à l'aide un enquêteur de l'escouade du FBI spécialisé dans le vol d'auto afin qu'il examine la pièce. Son analyse fournit la première piste sérieuse de l'enquête. Il appela immédiatement l'agent spécial Stern pour lui faire part de ses conclusions.
Il m'a dit « Chuck, j'ai examiné tout ça » et j'ai demandé à la personne qui me montrait la pièce si elle savait ce que représentait ce numéro. C'était le numéro d'identification confidentielle du véhicule.
Ce numéro est tout aussi unique à une automobile que les empreintes digitales d'un individu. Ce numéro caché permet aux autorités de savoir si un véhicule a été volé. Il permet également aux enquêteurs d'obtenir des renseignements sur le véhicule, notamment qui en est le propriétaire. En moins de 3 heures, les enquêteurs avaient introduit le numéro dans la base de données criminelle nationale, le NCIC, dans laquelle se trouve la liste de tous les véhicules volés aux États-Unis. La réponse ne tarda pas à leur parvenir. C'était le numéro d'identification d'une camionnette Ford volée du concessionnaire DIB à Jersey City, au New Jersey. On contacta sans attendre le bureau du FBI à Newark. En l'espace de quelques minutes, des agents se présentèrent chez DIB pour savoir qui avait eu accès au véhicule.
Cette camionnette Ford était en fait un véhicule de location de la société Ryder. Un certain Mohamed Salamé l'avait loué, puis il avait signalé son vol. Les agents ont appris des dirigeants de DIB que ce Salamé avait fourni une caution de $400 et qu'il avait essayé à maintes reprises de récupérer son argent.
Après avoir consulté le procureur tard dans la soirée du mercredi, le FBI décida d'envoyer un agent incognito chez DIB le lendemain matin, lorsque Salamé viendrait chercher sa caution. Les agents passèrent le reste de la soirée à tenter d'en apprendre le plus possible sur ce Salamé. Cet immigrant de 25 ans, d'origine palestinienne, s'était fait connaître des autorités lorsqu'il avait publiquement appuyé l'intégriste musulman El Saïd Nasser, un opposant bien connu des gouvernements israéliens, égyptiens et américains. L'agent secret se fit passer pour un représentant de Ryder. Il déclara à Salamé qu'il devait obtenir plus d'informations à propos du vol de la camionnette pour lui accorder un remboursement. Après discussion, Salamé se préparait à quitter l'immeuble, les $400 en poche. Mais dès qu'il eut franchi le pas de la porte, des dizaines d'agents du FBI qui avaient écouté sa conversation avec l'agent secret se précipitèrent sur lui. Moins d'une semaine après l'explosion, le FBI avait un suspect en détention. Salamé parla peu aux agents qui l'interrogèrent à propos de l'explosion. Ceux-ci croyaient qu'il n'avait sans doute pas agi seul. Les enquêteurs commençaient à y voir un peu plus clair. Au moment de l'arrestation de Salamé, ils recueillirent de nombreux effets personnels, notamment son porte-monnaie qui contenait de nombreuses cartes de visite et des numéros de téléphone. Ils se rendirent ensuite à l'adresse qui figurait sur son permis de conduire. Son ancien colocataire déclara que Salamé ne logeait plus là. Toutefois, les agents trouvèrent des effets qu'il avait laissés derrière lui. Il y avait notamment des articles de journaux et des photos de lui en compagnie de Nasser. Ils y trouvèrent également des relevés bancaires. Il y avait aussi d'autres noms et adresses, autant de nouvelles pistes à suivre.
On a pu mettre la main sur des adresses et des numéros de téléphone. On a également obtenu l'autorisation de vérifier le registre des appels entrants et sortants de ces lignes téléphoniques. Encore une fois, c'était comme si on ouvrait les vannes.
Les enquêteurs eurent également l'aide du public. Quelques jours après l'arrestation de Salamé, le gérant de Space Station, une entreprise d'entreposage au New Jersey, appela le FBI. Des individus ayant loué l'unité 4344 avaient reçu de nombreux colis de fabricants de produits chimiques peu de temps avant l'explosion du World Trade Center. Le gérant avait fait ouvrir l'unité en question et y avait trouvé ce qui semblait être des produits et de l'équipement pour fabriquer des bombes. Les agents du FBI arrivèrent à la même conclusion que lui. Ils y trouvèrent de nombreux composés chimiques utilisés dans la fabrication de bombes. Ils envoyèrent le tout au labo du FBI pour analyse. La fouille de l'unité d'entreposage permit d'obtenir plusieurs autres pistes de recherche. Des reçus d'achat de produits chimiques, des relevés bancaires et téléphoniques, et un bonus inespéré, un compte-rendu des allées et venues du suspect à Space Station. En effet, pour entrer dans l'unité, le locataire devait taper son code d'accès sur un clavier à l'entrée. Chaque fois, ce code était enregistré par le système électronique. Les agents purent ainsi savoir à quel moment précis le suspect était entré dans l'unité 4344. Au même moment, la police organisa une séance d'identification. Doug Mulvan, le gérant de Space Station, identifia sans mal Mohamed Salameh comme étant l'homme qui avait loué l'unité d'entreposage. Il le reconnut facilement car Salameh venait souvent. Par expérience, Mulvan savait pourtant que ses clients ne viennent d'ordinaire que très rarement. Poursuivant leur recherche d'une piste solide, les agents obtinrent les relevés téléphoniques d'un téléphone public situé devant Space Station. L'un des individus qui recevait souvent des appels en provenance de cet appareil était déjà bien connu des agents du FBI. Il s'agissait d'un certain Nidal Hayat. C'était le premier nom qu'on avait aperçu parmi les cartes professionnelles du porte-monnaie de Salameh. Hayat était ingénieur chimiste. Moins d'une semaine après l'arrestation de Salameh, les agents apprirent qu'Hayat avait appelé un fabricant de produits chimiques pour s'enquérir à propos d'achats. Ainsi, il était possible qu'il commette un autre attentat à la bombe. Cette hypothèse était terrorisante car la menace était réelle. Les agents croyaient avoir obtenu suffisamment d'informations pour obtenir le mandat d'arrêt d'Hayat. Le 10 mars, le FBI envoya des agents à l'assaut de sa maison du New Jersey pendant qu'il était à table avec sa famille. Après avoir fouillé les lieux, les agents se rendirent rapidement à la Hallett Chemical, l'entreprise où ils travaillaient. Ils y recueillirent les relevés téléphoniques et bancaires qui démontreraient peut-être qu'il avait un lien avec Salameh. La preuve la plus convaincante de l'implication d'Hayat dans la fabrication de bombes se trouvait dans son ordinateur. On le confisqua avant de l'examiner attentivement.
Notre équipe technique est parvenue à récupérer un dossier effacé. Il s'agissait d'une lettre où l'auteur revendiquait l'explosion du World Trade Center au nom d'une organisation connue sous le nom de 5e bataillon de l'armée de libération.
Le New York Times avait reçu cette lettre 4 jours après l'explosion. L'organisation y déclarait qu'il s'agissait d'un attentat terroriste pour protester contre le soutien des États-Unis à Israël. L'ordinateur contenait également une autre lettre qu'Hayat n'avait pas eu le temps d'envoyer. Cette lettre annonçait une deuxième explosion. Même si l'enquête progressait rapidement, chaque nouvelle découverte laissait entrevoir l'existence d'un important complot toujours en cours. Chaque jour, la possibilité qu'il y ait de nouvelles attaques grandissait. Pendant que le FBI tentait d'en apprendre le plus possible des suspects principaux de l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salameh et Hayat mettaient tous leurs efforts à préparer leur défense. L'analyse des relevés téléphoniques confisqués mena les enquêteurs à un appartement de Jersey City. Le propriétaire de l'immeuble du 40 Pam Rapo Avenue confirma que Salameh ainsi qu'un autre individu avaient loué l'appartement au début de janvier 1993 jusqu'à la fin du mois de février suivant, soit seulement 2 mois plus tard. Le propriétaire ne put dire qui était le locataire de Salameh. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il se prénommait Rachid. Ce prénom était probablement faux. On fit rapidement émettre un mandat de perquisition. Lors des fouilles, les agents purent confirmer qu'on avait de fait fabriqué des bombes à l'appartement ci au 40 par Rampo Avenue. C'est à cet endroit que les complices avaient mis au point un engin explosif assez puissant pour ébranler tout le sous-sol du World Trade Center. Dans l'appartement ainsi que dans le garage adjacent, les experts judiciaires du FBI trouvèrent des traces d'une série de produits chimiques. Ils les acheminèrent illico au laboratoire du FBI à Washington. Au cours de leur recherche dans l'appartement, les agents découvrirent l'identité du mystérieux colocataire de Salameh. En effet, des formulaires précisaient qu'un certain Ramzi Youssef avait demandé l'asile politique aux États-Unis. Selon ces mêmes documents, il avait été arrêté en septembre 1992 à l'aéroport Kennedy, faute d'avoir pu présenter un visa à son arrivée au pays. L'appartement de Parampo Avenue était une véritable mine d'or pour le FBI. Avant cette fouille, les experts du laboratoire du FBI n'avaient pu qu'émettre des hypothèses à partir des résidus recueillis au World Trade Center. Ils croyaient que les auteurs de l'attentat s'étaient servis de nitrate d'urée, un composé très instable. Mais maintenant, depuis la découverte de la fabrique de bombes de Parampo Avenue, ils en étaient certains. Du laboratoire du quartier général du FBI à Washington, l'agent spécial Roney transmit ses conclusions.
Suite à l'analyse en laboratoire, nous avons conclu que la bombe était composée de nitrate d'urée. Le produit avait été mis au point de façon artisanale. Il n'en existe pas sur le marché. Après qu'on ait trouvé l'endroit où ils avaient fabriqué cette bombe, on a pu confirmer cette hypothèse. En effet, les résidus recueillis dans l'atelier étaient en tout point identiques à ce dont nous disposions en laboratoire.
On poursuivit l'examen de relevés téléphoniques et l'on interrogea de nombreux voisins. On voulait savoir surtout à quel endroit la conspiration s'était orchestrée. Toutes les personnes questionnées mentionnèrent avoir aperçu un individu en compagnie de Salamé et Ramzi Youssef. Par les relevés téléphoniques, on détermina qu'il s'agissait de Mahmoud Abou Halima. Les agents enquêtaient sur cet individu lorsqu'ils apprirent qu'il avait quitté le pays peu de temps après l'attentat à la bombe. Les autorités connaissaient déjà ce Abou Halima en raison de ses liens avec El Saïd Nasser. Abou Halima était également un proche de l'intégriste religieux Cheikh Omar Abdul Rahman, qui serait plus tard condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour avoir participé à des complots visant à détruire plusieurs immeubles importants de New York. Peu de temps après qu'on ait appris qu'Abou Halima avait fui le pays, les autorités égyptiennes contactèrent le FBI pour leur annoncer qu'ils avaient arrêté le suspect au Caire et qu'ils le détenaient. Abou Halima était aussi recherché en Égypte pour avoir comploté contre le président du pays, Hosni Moubarak. Les gouvernements américains et égyptiens en arrivèrent rapidement à une entente concernant le suspect. Des agents du FBI s'envolèrent pour le Caire pour aller y chercher Abou Halima. Lorsqu'il fut remis aux mains des agents, le suspect portait des menottes et sa tête était complètement recouverte d'un morceau de tissu. Il pensait qu'il s'en allait droit à son exécution. C'est avec soulagement qu'il vit les agents du FBI venus le chercher. Il leur parla donc librement lors du vol de retour vers New York.
Il a fait plusieurs commentaires dont on a pu servir contre lui lors de son procès. Une de ses phrases clés a été « Vous êtes au courant pour Rachid ?» On a su plus tard que c'était le faux nom de Ramzi Youssef.
Abou Halima déclara à Stern que Youssef et lui s'étaient rencontrés en Afghanistan au camp secret du mouvement de libération armée des Moudjahidines, un camp d'entraînement où se retrouvaient des terroristes internationaux. Le nom de Ramzi Youssef apparaissait à chaque étape de l'enquête. Ce terroriste international était également expert en explosifs. Les agents croyaient qu'il avait orchestré l'attentat à la bombe du World Trade Center. Le FBI se mit dès lors à la recherche de Youssef. Les agents apprirent bientôt que celui-ci avait quitté le pays le soir de l'attentat à la bombe. On commença des recherches internationales pour retrouver ce suspect. Parallèlement, d'autres agents du FBI essayaient de découvrir à quel moment il était venu aux États-Unis et par quels moyens de transport. Certains ont affirmé que le terrorisme était arrivé aux États-Unis le jour même où Ramzi Youssef y avait foulé le sol. Le 1er septembre 1992, l'expert en explosifs afghan arriva à l'aéroport Kennedy à New York. Un examen minutieux de la liste des passagers à bord du même vol que lui permit au FBI de découvrir un autre indice. Youssef n'était pas venu seul. Un certain Ahmed Hajjaj l'accompagnait. Les agents des douanes l'avaient d'ailleurs détenu car il avait présenté un faux passeport suédois. ces valises contenaient plusieurs ouvrages traitant de fabrication de bombes et de techniques de guérilla. On lui avait confisqué sa valise et on l'avait fait incarcérer pour fraude. On pouvait en déduire qu'Ajaj ne faisait vraisemblablement pas partie du complot. Il était en prison depuis septembre 1992 et l'attentat à la bombe du World Trade Center avait eu lieu en février 1993. Selon les règles en vigueur dans cette prison, tous les appels étaient enregistrés. Ajaj avait laissé une piste sans le savoir et les agents s'empressèrent de la suivre.
On s'est vite rendu compte qu'il était resté en contact avec les autres conspirateurs de diverses façons, mais surtout en faisant des appels à trois, c'est-à-dire qu'il appelait quelqu'un qui, à son tour, relayait les appels à un troisième homme. De fait, il aidait ses comparses à réussir leur mission, fabriquer cette bombe.
Les agents du FBI interrogèrent Ajaj à propos de ses contacts et de ses connaissances en explosifs. Même s'il parla peu, son silence n'empêcha pas les agents du FBI de le faire accuser relativement à l'attentat à la bombe. Avec ses quatre suspects maintenant en détention, les autorités décidèrent d'ouvrir le procès, même si on était toujours à la recherche d'autres complices. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salameh, Hayad, Abu Halima et Ajaj comparurent à la Cour fédérale à New York.
Au moment où le procès a commencé en septembre 1993, il nous a fallu mener deux enquêtes de front. On devait continuer d'identifier tout complice et retrouver les fugitifs en plus de se préparer pour ce procès qui allait durer six mois et ne se terminer qu'en mars 1994.
À ce moment-là, les experts avaient examiné les nombreuses scènes de crime. Le World Trade Center. L'unité d'entreposage. Et l'atelier de fabrication des bombes. De plus, on avait récupéré 70% de la camionnette ayant servi au transport de la bombe. On disposait également de quantités de reçus, de relevés téléphoniques et de rapports d'interrogatoire. On avait recueilli des tonnes d'indices. Il ne restait plus maintenant qu'à déterminer si cela suffirait au jury. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, le procureur était prêt à dire au jury comment les accusés avaient mené à terme cet acte de terrorisme. Tout avait commencé peu de temps après l'arrivée de Ramzi Youssef aux États-Unis en septembre 1992. Il avait emménagé avec Salameh et les deux hommes étaient devenus amis. Leur amitié était fondée sur leur haine commune d'Israël et sur leur volonté d'obliger les États-Unis à cesser tout appui au gouvernement israélien. Ils avaient choisi le World Trade Center pour mener leur projet à terme. Les tours jumelles du World Trade Center étaient les plus hautes de la ville. Elles s'élevaient à 400 mètres au-dessus du sol. Le complexe comprenait aussi l'hôtel Vista, de nombreuses aires de boutiques souterraines, de même que des couloirs qui menaient au métro de New York et du New Jersey. Sous ces couloirs se trouvait un stationnement souterrain de 5 étages comprenant également des bureaux. Les terroristes croyaient que leur bombe serait plus meurtrière si elle était placée dans le stationnement souterrain. Le plan fut mis en action. Des reçus indiquaient qu'en novembre, Youssef avait acheté des produits chimiques sous un faux nom. Il avait effectué d'autres achats tout au long de l'hiver, tout en peaufinant la composition de sa bombe et en établissant le plan de son attentat. Les produits chimiques étaient livrés à l'unité d'entreposage de Space Station. Salameh et Youssef signaient les reçus de réception de ces colis en se servant de faux noms pour qu'aucun document ne mène la police jusqu'à eux. Les manuels de fabrication de bombes d'Ajaj, confisqués lors de son arrivée aux États-Unis, manquaient à Youssef. Il avait donc mis au point un système de communication à trois personnes pour parler secrètement avec Ajaj en prison depuis New York ou encore depuis son appartement du New Jersey. Youssef appelait d'abord son ami Hayad Ismail, travaillant dans un comptoir à hamburger à Dallas, au Texas. Hayad appelait ensuite Ajaj pendant que Youssef attendait sur son autre ligne. Quand Ajaj répondait au téléphone en prison, Ismail le mettait en contact avec Youssef. Ainsi, les trois hommes pouvaient discuter ensemble de leur plan. Le 16 février, il loue une voiture pour aller voir le World Trade Center de plus près. Les empreintes digitales de Salamé sur le volant démontraient qu'il conduisait. On avait trouvé ces empreintes sur le billet de stationnement du deuxième niveau B. Les agents disposaient aussi d'un croquis de la main d'Ayad de cet étage du stationnement. Puis, quatre jours avant l'attentat, à la demande de Youssef, Hayad Ismail partit de Dallas pour se rendre à New York en vue de participer à la fabrication de la bombe. Ismail devait également conduire la camionnette transportant l'engin explosif dans le stationnement. C'était quelqu'un en qui Youssef faisait confiance. De plus, il avait déjà été chauffeur de taxi à New York. Il était compétent pour mener cette délicate opération. Le 23 février, Salamé se rendit à la compagnie de location de voitures DIB et loua la camionnette Ford. En échange, il laissa une caution de $400. La bombe était presque terminée. Il ne restait plus qu'à faire une dernière visite de reconnaissance du stationnement souterrain du World Trade Center. À bord d'une Chevrolet Corsica Bordeaux louée par Hayad, dont le second conducteur, selon les documents, était Salamé, les complices se rendirent au stationnement avec Youssef et Ismail pour déterminer à quel endroit précis laisser la bombe. On montra au juré un autre billet de stationnement qui confirmait cette visite, la marque de la voiture, de même que le niveau où elle avait été garée, B2. Le 25 février, à l'appartement d'Abu Halima sur Parampo Avenue, celui-ci, aidé de ses complices, mélangea soigneusement de l'acide sulfurique et nitrique avec de la glycérine pour en faire un composé fatal et très volatile, de la nitroglycérine. On estime à 550 kg la quantité de cristaux d'urée mêlée à plusieurs litres d'acide citrique. Puis les complices versèrent le mélange dans de gros barils de métal où il se transforma en masse gélatineuse. Quand ce fut fait, le tout fut versé dans des poubelles de plastique. L'un des hommes recula la camionnette dans l'entrée derrière l'immeuble, vis-à-vis de l'escalier menant à l'appartement, pour que les autres puissent charger en secret leur dangereux engin explosif dans la camionnette. Un cocktail de produits chimiques, un agent liant, un fusible et un détonateur. Ils transportèrent d'abord les poubelles de plastique, au milieu desquelles ils avaient placé la nitroglycérine. Ils avaient relié entre eux quatre longs fusibles à l'aide d'un fil qui passait à travers des tubes du genre de ceux qu'on utilise dans les salles d'opération. De cette façon, il y aurait moins de fumée et le fil brûlerait moins rapidement, ce qui donnerait le temps aux terroristes de s'enfuir. Les fusibles étaient reliés à des amorces et à des boîtes de poudre explosives, puis insérés dans chacun des contenants de nitroglycérine. Il ne manquait plus que l'hydrogène qui rendrait l'explosion encore plus dévastatrice. Suivi par Hayad à bord de sa Corsica, les hommes se rendirent à Space Station pour y prendre l'hydrogène. Après l'avoir mis avec beaucoup de soin dans la camionnette, ils calèrent les trois réservoirs rouges derrière les boîtes de nitro contre les portes arrière. Youssef et Ismail se rendirent ensuite avec la camionnette à un hôtel de Manhattan. Les fichiers de l'hôtel montraient qu'Ismail avait réservé une chambre pour la nuit du 25 février. Ils garèrent la camionnette pour la nuit à l'abri des regards. Le lendemain, les terroristes n'avaient plus qu'à se rendre au World Trade Center. Il était environ midi 2 minutes, le vendredi 26 février 1993, lorsque la camionnette arriva au niveau 2 du stationnement souterrain du World Trade Center. Ismail conduisait la camionnette, tandis que Youssef était assis dans le siège du passager. La Corsica Bordeaux suivait. Ils garèrent la camionnette dans l'espace de stationnement normalement réservé aux véhicules des autorités portuaires de New York. Comme le World Trade Center appartient à ces autorités, leur parc de véhicules a un accès plus facile aux entrées et sorties du stationnement. La voiture pour prendre la fuite attendait tout près. Un des hommes tint un briquet allumé près d'un fusible. Dès qu'il fut allumé, les hommes s'engouffrèrent dans la Corsica et prirent la fuite. Le feu progressait d'un centimètre toutes les secondes. Il ne faisait aucun bruit, ni fumée, en raison du tuyau chirurgical utilisé par les terroristes. Youssef, Ismail et les autres sortirent du stationnement quelques secondes à peine avant l'explosion. À midi 18, des mois après avoir planifié l'attentat, les terroristes obtinrent ce qu'ils avaient souhaité. L'impact de l'explosion sur le mur de la tour fut colossal. Tout ce qu'il y avait autour fut détruit. Plus tard, le même jour, alors que les sauveteurs et les enquêteurs accouraient sur la scène, Youssef était confortablement assis dans un avion en route vers le Pakistan et Ismail dans un avion pour la Jordanie. Quelques jours plus tard, Abu Halima quitterait les États-Unis à son tour. Si les enquêteurs n'avaient pas trouvé le numéro d'identification du véhicule si rapidement, Salamé aurait sans doute eu le temps de fuir le pays lui aussi. Au cours du procès de 6 mois, le jury entendit 206 témoins et passa en revue un total de 10 000 pages de témoignages. En février 1994, soit un an après l'attentat, le procès prit fin. Le jury ne mit que 3 jours à rendre son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La présidente du jury lut alors 38 déclarations de culpabilité pour complot, destruction de propriété par explosion, transport d'explosifs d'un état à l'autre et enfin meurtre. 3 mois plus tard, le 24 mai 1994, le juge Kevin Duffy condamna chacun des coupables à 1 an de prison pour chaque année de vie volée aux victimes. Ils écopèrent ainsi de 240 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle. La lecture de la sentence dura plusieurs heures car chacun des inculpés fit un long discours. Mohamed Salamé, le chimiste Nidal Hayad, Ahmed Hajjaj, l'homme qui avait apporté les manuels de fabrication de bombes, et Mamhoud Abu Halima, surnommé le Rouge, passeront le reste de leur existence en prison. Ce n'est qu'en février 1995, 2 ans après l'attentat à la bombe du World Trade Center, qu'on arrêta enfin Ramzi Youssef au Pakistan et qu'il fut remis aux mains d'agents du FBI. C'est l'agent Stern qui fut envoyé pour le ramener aux États-Unis. Youssef se déclara prêt à parler. Il haïssait les Américains pour leur aide aux Israéliens. Il déclara à Stern qu'il avait choisi le World Trade Center comme cible car c'était le plus important symbole de l'impérialisme américain. La dernière arrestation eut lieu 6 mois plus tard, en juin 1995. Hayat Ismail fut trouvé et arrêté en Jordanie. On le ramena à son tour aux États-Unis pour qu'il soit jugé pour son rôle dans l'attentat. Youssef et Ismail comparurent en même temps à New York. En janvier 1998, après qu'ils eurent été trouvés coupables des mêmes 38 chefs d'accusation que leurs complices, un juge les condamna tous deux à la prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. Une fois les coupables incarcérés, le FBI, de même que les autres services policiers américains, ont pu enfin faire le point sur cette enquête.
L'attentat à la bombe du World Trade Center a constitué un réveil brutal pour nous tous au sein des forces policières. C'était à ce jour le plus important attentat terroriste au pays. Bien que le terrorisme soit présent aux États-Unis depuis plusieurs années, le fait qu'on s'en soit pris au World Trade Center était plus terrifiant que ce qui s'était produit auparavant.
Le FBI est parvenu à résoudre ce complot rapidement et à punir les coupables. Mais cette catastrophe, aussi épouvantable fut-elle, n'a été que le signe annonciateur du séisme qui devait avoir lieu en septembre 2001 au même endroit. Le terrorisme n'était pas terminé. Le sera-t-il un jour ?